France Inter.
Primatologue, vétérinaire, enseignante et chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle, Sabrina Krieff, œuvre à la connaissance et à la protection des chimpanzés depuis près de 30 ans. Spécialiste des grands singes et de leur art de l'automédication, elle a notamment publié « Apprendre des chimpanzés », « Les chimpanzés des monts de la Lune » avec son époux Jean-Michel Krieff et Nicolas Hulot et « Chimpanzés, mes frères de la forêt ». En 2006, elle a fondé l'association Projet pour la conservation des grands singes et s'engage dans des actions d'éducation environnementale en France et en Afrique. Avec son mari, elle a fondé en 2008 le Sebitoli Chimpanzee Project dans le parc national de Kibale en Ouganda, où elle dirige une équipe développant des travaux sur les effets des activités humaines sur le comportement et l'écologie des chimpanzés. Je n'ai jamais dit autant chimpanzés dans une introduction. En 2015, elle a œuvré comme commissaire scientifique sur l'exposition Sur la piste des grands singes au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui suscite la curiosité de 240 000 visiteurs. Elle vient de publier Infiniment proche en Ouganda dans les secrets des chimpanzés aux éditions Grasset, une plongée scientifique et autobiographique dans l'univers de ses compagnons favoris avec lesquels nous avons 99% d'ADN en commun. Nous découvrirons ce soir l'espièglerie, la diplomatie et l'empathie de ceux qui ont déjà perdu 70% des leurs en Ouganda en 50 ans, notamment et évidemment à cause des activités humaine. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Sabrina Krieff.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Alors je pense hier matin quand je me suis réveillée dans le Perche, que j'ai vu le printemps arriver et que j'ai relevé mes caméras pièges et que j'y ai vu des blaireaux et des renards.
Alors, dites-nous en plus sur vos caméras pièges.
Donc, c'est un peu devenu une marotte. Ce sont des caméras à détection de présence que je pose en Ouganda, mais aussi donc, dans le champ à côté de ma maison dans le Perche, et où donc, je vois passer la faune soit africaine, soit percheronne, et donc ces fameux blaireaux qui sont mes colocataires en France.
Vous arrivez à les approcher ?
Non, je les regarde par image interposée, je ne sais pas en fait.
Les chimpanzés.
Exactement, donc essayer de garder cette distance, mais profiter en fait de ces belles images qui en fait me font découvrir un monde souvent nocturne qu'on a du mal à imaginer en pleine journée.
Qu'est-ce qui vous a surpris ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous surprennent quand vous observez les chimpanzés en Ouganda, mais alors dans le Perche, en voyant ces blaireaux, ces renards, sur ces images, qu'est-ce qui vous a surpris le plus ?
En fait, au pied d'un des poiriers dans le jardin, la nuit, il se trame tout plein de choses. Hein, c'est-à-dire que des blaireaux peuvent côtoyer des renards pour se délecter de poires. On y voit parfois des familles de sangliers avec 15 individus. Et la journée, trace de personne. Donc, ils arrivent...
Comme des dealers.
Exactement.
Vous êtes née à Maison Alfort, où se situe la célèbre école nationale de vétérinaire que vous avez faite. Vous étiez prédestinée parce que, pas vraiment, racontez quand même, quand vous étiez petite, on vous a découvert énormément d'allergies, c'est-à-dire que vous étiez faite pour l'inverse de ce que vous vouliez, être vétérinaire.
En fait, vers 3-4 ans, mes parents avaient un chat et j'étais asthmatique, j'arrêtais pas vraiment d'éternuer, de faire des crises d'asthme. Et donc, je suis allée chez l'allergologue qui, donc, faisant ces petites clarifications-là, a découvert que j'étais non seulement allergique aux poils de chat, mais aussi de chien, aux acariens, au foin, à la poussière, aux champignons, à peu près tout, quoi. Et donc, évidemment, la première chose qu'elle a dite à mes parents, c'est il faut pas qu'elle soit vétérinaire. Et voilà, je me suis peut-être un peu construite en réaction à ça. Et la proximité de l'école véto a peut-être aussi favorisé mon envie de devenir vétérinaire, mais surtout de mieux comprendre les animaux.
Alors à Maison Alfort, vous aviez un voisin vétérinaire qui était aussi un fin linguiste qui parlait arabe, vietnamien, suédois, qui faisait du violon, ce qui a beaucoup agacé votre mère. Et donc ce qui a commencé comme une relation un peu austère s'est mué en amitié. Et il vous emmenait faire du patinage artistique et vous l'imaginiez comme l'équivalent humain de Balou, l'ours du livre de la jungle.
Oui, exactement. Il était assez enveloppé, mais d'une grâce incroyable dès qu'il était sur des lames de patins à glace. Et donc il virevoltait comme ça sur la patinoire. Et ça, vraiment, ça m'a fascinée. Et c'est vrai que j'avais un peu de tendance à l'imaginer comme Balou.
Et vous occupiez de chevaux en pension tous les week-ends?
Alors, on avait déjà donc une maison dans le Perche. Mes grands-parents avaient acheté une maison dans le Perche quand je suis née. Et j'avais la chance de pouvoir y aller tous les week-ends. Et comme j'étais fille unique, une de mes passions, c'était soit de m'allonger dans la pelouse et de regarder les coccinelles et les sauterelles, soit ma mère m'amenait faire du poney. Et donc, voilà, c'est pareil. Je me suis pris de passion pour les chevaux. Pas du tout dans l'idée de faire du manège ou de tourner en rond, mais plutôt de partir en balade. Et donc, j'ai découvert la forêt percheronne à dos de cheval.
Et où en êtes-vous de vos allergies aujourd'hui ?
En fait, tant que je ne suis pas en contact étroit avec des animaux à poils ou à plumes, tout va bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de pratiquer au départ vétérinaire, mais plutôt en extérieur, et puis par la suite de m'orienter vers la recherche. Depuis toujours, en fait, j'avais envie de travailler sur une faune plus sauvage qu'une faune domestique, mais ça faisait partie de mes rêves et voilà, j'avais aucune certitude de pouvoir aboutir à ça. Là, j'ai la chance de travailler avec des chimpanzés, mais pas de les toucher et pas d'être dans un environnement extrêmement proche. Donc, tout va bien.
Allongée seule sur mon lit, j'ai le mal du pays. J'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais je l'ai solitaire pour toucher ta magie, noire ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vis d'ici. Je suis Mali,
Bissansi, Mali, Bissansi.
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 Je suis Mali.
Qu'est-ce qu'on entend, Sabrina Krief ? C'est votre choix musical.
Ouais, une magnifique chanson qui me fait ressentir la même mélancolie en fait quand je l'écoute et que je me trouve en France et que mon âme vagabonde ailleurs en Afrique.
Alors c'est l'âme au Mali. Il y a M dedans évidemment. Et alors la question que je me pose, c'est puisque comme vous vivez entre Paris, le Perche et le parc où vous observez les chimpanzés en Ouganda, est-ce que vous êtes mélancolique quand vous changez d'environnement ? Parce que ça doit être un sacré contraste.
Oui, alors petit à petit, en fait, la fréquence de passage de l'un à l'autre est tellement importante que je m'adapte extrêmement vite. C'est-à-dire que quand j'arrive en Ouganda, je ne me sens pas du tout dépaysée. En plus, j'ai la chance de travailler avec Jean-Michel, mon mari. Donc voilà, ça fait effectivement à peu près 30 ans qu'on fait des allers-retours entre la France, le Perche, Paris et l'Ouganda. Et surtout, je retrouve ceux qui sont en fait ma deuxième famille, donc à la fois les chimpanzés, mais aussi toute mon équipe, puisque aujourd'hui, la famille s'est agrandie. On a commencé, on avait deux assistants de recherche, et aujourd'hui, on a une équipe de 35 personnes. On a quasiment jamais personne qui est partie de cette équipe. On a des liens aussi très forts avec cette équipe.
Alors, vous êtes un être qui montrait que les limites peuvent être dépassées et que les choses peuvent durer longtemps, puisque l'équipe personne n'est partie, c'est quand même assez rare pour être précisé. Et votre mari, vous l'avez rencontré au lycée.
Oui, en terminale, on s'est rencontrés en terminale et on a grandi à la fois ses projets et l'amour des chimpanzés et de l'Afrique ensemble. En fait, je pense que c'est vraiment une rencontre commune qui a fait que nos projets se sont articulés de façon à ce que chacun trouve son équilibre dans ce travail.
Parce que vous avez fait une première grande expédition au Kenya ensemble en 93 et vous êtes allé rencontrer vos premiers grands singes à Bornéo dans l'archipel malais en Asie du Sud-Est en 95.
Oui.
Vous vous souvenez de cette rencontre ?
Avec les orangs-outans, oui, tout à fait. En fait, c'est un moment assez extraordinaire parce que une femelle orang-outan sauvage est descendue vers nous. Et en fait, de façon assez spontanée, elle est passée à quelques mètres de nous avec un jeune accroché à son ventre. Déjà à l'époque, la déforestation était intense à Bornéo. Et ça a été un échange de regards qui nous a embarqués. Ce qui fait que, par la suite, bien que j'étais donc à l'école vétérinaire, j'avais toujours en tête, et avec Jean-Michel, on avait envie de repartir à Bornéo et de travailler sur les orang-outans. Et la rencontre, en fait, avec les chimpanzés s'est faite par défaut, puisque j'avais rencontré Marc Ancrenas, qui était un vétérinaire qui travaillait sur la faune sauvage à l'école vétérinaire, qui m'avait proposé de partir sur son projet qu'il était en train de mettre en place à Bornéo. Et il avait du retard dans ce projet, et dans la mise en route de ce projet, donc il m'a proposé d'aller en attendant au Congo. Et voilà, ça fait 30 ans que ce projet avec les chimpanzés a commencé.
Et est-ce que c'est au Congo que s'est produite cette rencontre avec une chimpanzée orpheline qui est venue vous enlacer ?
Oui, c'était le premier contact et la première vraie rencontre avec un chimpanzé. Donc on était parti pour 6 mois pour suivre en théorie des chimpanzés orphelins dans une zone de forêt. Mais avant de partir dans cette zone de forêt, on a été nourrir une partie des chimpanzés qui étaient donc sur des îles, des chimpanzés qui étaient récupérés par une association qui était une sorte d'orphelinat. Et là, on nous a prévenus en nous disant vous allez sur les barques, mais il faut faire attention, il ne faut surtout pas que les chimpanzés montent dans la barque, ils peuvent être dangereux, etc. Et je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Cette chimpanzée a grimpé dans la barque et m'a prise dans ses bras. Et voilà, ça a été la première fois que je voyais un chimpanzé en milieu quasi naturel et le premier contact que j'ai eu avec eux.
Est-ce que vous avez eu une allergie à ce moment-là ?
Absolument pas. Ah. En fait, le contact a été extrêmement bref. Donc, elle m'a enlacée. Et puis, après, elle est redescendue de la barque comme un geste de bienvenue, sans plus de câlins.
Vous lui avez rendu son accolade ?
Je me suis laissée faire. Ça s'est passé tellement vite que j'ai eu du mal même à réaliser que ça s'était vraiment passé. C'était un peu comme dans un rêve.
Vous y repensez souvent ?
J'y repense, ouais, régulièrement.
Comment vous en êtes-vous venu à vous intéresser à l'automédication chez les chimpanzés? Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les grands singes? Parce que j'ai employé le terme grand singe à dessein.
Oui, alors ce sont des primates qui, en fait, ont la particularité de ne pas avoir de queue, et donc qui se caractérisent par une grande taille et des capacités cognitives, donc une intelligence tout à fait particulière. Et donc, parmi les grands singes, on trouve donc trois espèces d'orang-outans, donc qui vivent uniquement en Asie du Sud-Est, deux espèces de gorilles, les gorilles de l'Est et les gorilles de l'Ouest, les chimpanzés et les bonobos, donc en Afrique. Et donc, qu'est-ce que l'automédication? Comment j'en suis venue à me poser cette question? Est-ce que les chimpanzés sont capables de trouver des plantes et des substances naturelles qui peuvent leur aider à maintenir leur bonne santé? En fait, ça s'est passé au Congo, quand je suivais ces jeunes chimpanzés orphelins qui finalement ont réussi à trouver leur alimentation. Et avec les Congolais avec lesquels on travaillait, on s'étonnait qu'ils réussissent à trouver non seulement à manger, mais aussi que parfois, ils aillent arracher des écorces, etc. Et les Congolais m'ont dit, oui, mais nous, on connaît bien ces plantes-là, au village, on les utilise pour se soigner. Donc, c'est plutôt des médicaments que vraiment des aliments. Et donc, en tant que vétérinaire, ça m'a interpellée. Et j'ai poursuivi, en fait, cette question de savoir si est-ce que c'était vraiment le hasard, une erreur, ou bien est-ce que vraiment ils choisissaient ces plantes-là et que ça pouvait avoir un effet sur leur organisme.
Et ça, on va y revenir dans la seconde partie de l'émission, parce que c'est assez fascinant. Il y a des choses. Il y a même une chose qui m'a donné une idée, mais j'ai peur de le faire, c'est d'ingérer des aliments non mâchés. Bon, je dirai pourquoi aux auditeurs tout à l'heure. Donc là, projetons-nous dans l'ouest de l'Ouganda, dans lequel votre travail a débuté il y a plus de 25 ans. C'est votre famille là-bas, ce sont les êtres avec lesquels vous passez le plus de temps, les chimpanzés. Et quand vous n'êtes pas là-bas, vous recevez des nouvelles par WhatsApp. Comment est-ce qu'on se prépare pour une expédition?
Alors, quand on est à Paris et qu'on doit faire des recherches, ça va dépendre en fait de la question qu'on se pose. Mais pour ma part, il faut que j'ai des petits récipients pour collecter les urines, les crottes, par exemple.
Et parfois, vous les remportez dans vos valises, ce qui fait rire les gens de la douane.
Et oui, forcément. au retour, voilà, je ramène des choses un peu plus originales, dont des morceaux de bois, qui sont en fait des outils que les chimpanzés utilisent. Et oui, c'est des fois quand on ouvre la valise.
Du miel ou des termites.
Exactement. Et des fois quand j'ouvre ma valise et que les douaniers vérifient, ils sont juste complètement interloqués.
Cette femme est très étrange.
Encore une folle.
Alors, ce qu'on apprend aussi sous votre plume, Sabrina Krief, c'est que les chimpanzés sèment des plantes où il y a des fruits qu'on a grâce à eux.
Oui, bien sûr, parce que en fait, à l'inverse de nous qui recrachons les noyaux de cerises, eux, ils ingèrent les graines des fruits, et donc leur transit prend 24 à 48 heures, et donc 24 à 48 heures plus tard, ils peuvent être à 6, 8, 10 kilomètres de l'endroit où ils l'ont ingéré, donc en déféquant, les graines vont pouvoir germer, et souvent ce passage par le tube digestif des animaux est indispensable pour que la germination se fasse, et donc aille replanter les arbres qu'ils aiment et les plantes qu'ils aiment, un peu plus loin. Et donc, si certains de ces arbres nous plaisent, les chimpanzés nous aident à les replanter ailleurs.
Comment vous expliquez ce lien particulier entre les grandes femmes primatologues et les grands singes?
I don't know that there's a special connection.
Je ne sais pas s'il y a un lien privilégié. Louis Leakey a choisi les femmes parce qu'il pensait que les femmes étaient de bonnes, voire de meilleures observatrices. Donc Diane Foster, Buruti Galdikas avec les orang-outans et moi-même. Et peut-être que les femmes sont plus patientes. Peut-être qu'elles sont moins impatientes d'obtenir des résultats. Et étant donné que nous sommes trois à avoir vécu la même expérience et que nous avons, je pense, bien travaillé, cela a encouragé d'autres femmes à suivre dans nos pas. Mais il y a des hommes qui ont de très bonnes relations avec les grands singes, ou les singes en général.
On entend la primatologue Jane Goodall dans La tête au carré de Mathieu Vidard sur France Inter en 2014. Sabrina Krief, vous l'avez rencontrée plusieurs fois, notamment en Ouganda.
Oui, je l'ai rencontré en Ouganda à l'occasion d'une inauguration d'une exposition qu'on avait faite à Kampala. Et donc, elle m'avait fait la joie et l'honneur de venir pour cette inauguration. Et puis, je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un an, peu avant son décès, au cours d'une rencontre assez brève, mais très intense. Et son attention envers notre échange m'a particulièrement émue, beaucoup plus que les années précédentes quand je l'avais rencontrée. Je l'avais aussi rencontrée juste à notre retour du Congo dans l'avion. Elle m'avait, sa présence m'avait interpellée parce qu'elle avait une peluche. Elle se promenait toujours avec une peluche chimpanzé et donc en voyant cette peluche, j'avais regardé et j'avais vu Jane Goodall dans l'avion. Donc c'était absolument incroyable. Mais là, oui, il y a un peu plus d'un an, cette rencontre m'a particulièrement touchée.
Alors on peut se dire que parmi vos modèles, on pourrait imaginer Diane Fossey, mais parmi vos modèles, il y a le biologiste explorateur Théodore Monod et l'ornithologue Jean Dorst.
Oui, ça fait partie des grands noms de la science, des explorateurs et du muséum. Donc ça fait partie effectivement des grandes figures. Après, je suis d'accord avec elle que les femmes ont probablement une grande patience et également une certaine humilité par rapport aux éléments naturels. Et ces deux personnes notamment aussi, et ce sont des hommes.
Jeannette est une femelle dominante, très curieuse. Elle devrait mettre bas dans quelques jours. Le père présumé du bébé, c'est Mekoutou. À 12 ans, il est le mâle le plus âgé du groupe. Mekoutou est un malin. Son activité favorite, le jeu. Son partenaire, Derek. Âgé de 8 ans, il est le plus jeune mâle. Il est gourmand, peureux, et il déteste la solitude.
Extrait du documentaire « Une histoire de chimpanzé » de Pierre Steen pour Wild Dogs en 2002 est raconté par Gérard Darmon. Je ne m'y attendais pas moi-même. Nous allons parler de votre livre, Sabrina Krief, Infiniment proche en Ouganda, dans les secrets des chimpanzés, paru chez Grasset. Je voulais qu'on entende un extrait où l'on entende leur voix, puisque dans votre livre, en fait, le verbe que vous utilisez le plus, c'est vocaliser. Mm-hmm. Mais il y a plein de choses possibles. Il y a des ululements, des aboiements, des grognements, des gémissements, des hurlements.
Exactement. Et là, on a entendu les voix de trois chimpanzés que je connais très bien et qui sont ceux qui m'ont ouvert la porte de l'univers des chimpanzés.
Vous connaissez Jeannette et Derek ?
Je connais Jeannette, Mekoutou et Derek.
C'est pas vrai.
Et je pensais que vous le saviez.
Eh bien, ils sont en studio ce soir. Mais non, je ne le savais pas.
Non, Mekoutou était le seul mâle en fait qu'on a suivi donc pendant 6 mois. Jeannette était une des femelles et donc il y avait avec eux 4 autres individus. Et c'est avec eux en fait qu'on a découvert la forêt tropicale. C'est Mekoutou qui vraiment nous a guidés vers les premières plantes médicinales. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de les entendre.
C'est fabuleux. Et alors, ce que j'ai appris en vous lisant, c'est que leurs cris sont modulés aussi en fonction de, par exemple, l'espèce de prédateur ou d'un danger en particulier.
Oui, ça, et aussi en fonction de l'audience qui est en présence. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à énormément exagérer leur peur ou leur plaisir.
Donc on peut dire qu'ils sont assez dramatiques.
Ouais, ils sont vraiment très à l'écoute et très, très réactifs à qui est autour d'eux. C'est-à-dire que si ils ont peur mais qu'il n'y a personne, ils vont partir sans forcément vocaliser. Alors que s'il y a quelqu'un qui peut venir les secourir, là, ils vont exagérer énormément.
Ça paraît très humain. Vous vous levez tous les matins à 4h30 quand vous êtes dans le parc national de Kibale.
Oui.
Et toujours avec allégresse.
Et oui, avec plaisir et bonheur de pouvoir imaginer qu'une heure et demie après, je serai sous le nid des chimpanzés à attendre peut-être qu'ils fassent un petit pipi pour pouvoir faire des analyses d'urine ou en tout cas qu'ils descendent et puis que je puisse passer la journée à les suivre.
Puisque le chimpanzé fait un nid tous les soirs.
Exactement. Donc, chaque chimpanzé fait un nid, sauf les mamans qui font un nid pour elles et leurs petits. Et ils en changent tous les soirs. Parce qu'en fait, ils sont nomades. Ils ne restent pas du tout au même endroit, même s'il y a un très bon arbre en fruits. Ils vont aller parcourir 5 ou 10 kilomètres pour aller voir s'il y a d'autres aliments, rencontrer d'autres individus. Parce qu'en fait, ils vivent en communauté, mais jamais tous ensemble tout le temps. Donc, c'est des groupes qui se font et se défont. Voilà, donc c'est aussi pour ça que le matin, je me réveille avec bonheur et enthousiasme, parce qu'il n'y a absolument aucune routine et on ne sait jamais où on va aller ni avec qui on va être dans la journée.
Donc je ne peux pas vous demander à quoi ressemble une de vos journées types, parce que je sais que parfois vous devez vous frayer des chemins à la machette, vous marcher des heures dans la jungle, je ne sais même pas où vous dormez, qu'est-ce que vous mangez, comment vous faites?
Alors on revient tous les soirs à la station. Le plus souvent quand on part très tôt, on revient en milieu d'après-midi, parce que déjà au bout de 12 heures de marche, effectivement on commence à ressentir la fatigue. Et certaines journées effectivement sont... des journées avec beaucoup de marches, notamment quand il pleut, les chemins sont glissants. On est à 1500-1600 mètres d'altitude, donc il y a vraiment des pentes assez rudes.
Il y a une faune dangereuse ?
Il y a une faune dangereuse et notamment beaucoup d'éléphants. Et ça, c'est à la fois un plaisir et une crainte.
Parce qu'ils font des glissades ?
Oui, aussi, comme nous. Mais bon, ils sont plus volumineux et évidemment, c'est pas forcément les glissades qui sont dangereuses, mais la rencontre. Et pourquoi c'est un plaisir de savoir qu'ils sont là? Parce qu'en fait, quand on a commencé, il y a un peu plus de 25 ans à cet endroit-là, il n'y avait aucun éléphant. Et petit à petit, ils sont revenus. Et ça aussi, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est que donc on a vu le retour des éléphants et maintenant, on a aussi deux hippopotames dans la zone où on est, des buffles et parfois aussi des espèces qu'on n'attendait pas. Comme par exemple une espèce de pangolin, etc. Donc les caméras trappes sont très utiles à ça, parce qu'on ne voit pas forcément tous ces animaux, notamment les hippopotames. J'ai jamais eu encore la chance de les voir en vrai, mais par contre je les découvre avec plaisir sur les images vidéo des caméras.
Alors, comme vous êtes vétérinaire de terrain et chercheuse de terrain, c'est très physique. Comment vous entretenez-vous? Parce que vous étiez asthmatique petite. Donc, on vous a dit déjà pas d'animaux, vous en avez fait votre vie. Et asthmatique, on vous a dit pas de sport, pas de piscine, pas de course. Et vous faites vous faites le GR20, vous faites plein de courses.
Oui, j'ai fait une dizaine de marathons. En fait, j'ai réalisé que c'était aussi possible de courir, comme c'était possible de travailler avec les animaux, même avec des allergies et de l'asthme. En fait, il faut réussir à trouver un moyen, quand on est ici en France, pour maintenir un certain niveau d'activité et de pas perdre une semaine ou 15 jours à s'adapter non seulement à l'altitude et puis au rythme des chimpanzés et de l'équipe ougandaise qui, eux, sont affûtés. Et donc, j'ai d'abord fait du taekwondo, on a fait avec Jean-Michel, et puis après on s'est mis à la course à pied. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a acquis une certaine endurance. Et donc, quand je suis en Ouganda, je me dis, tiens, c'est bien, ça m'entraîne pour la course à pied. Et quand je suis ici, je pense aux chimpanzés pour essayer de me motiver à courir.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Sabrina Krief, vous publiez Infiniment proche en Ouganda dans les secrets des chimpanzés chez Grasset dans la collection Terre et Sciences dirigée par Mathieu Vidard, mon confrère que je salue. Et alors on apprend dedans que gagner la confiance des chimpanzés, ça se mérite. Mais alors là, c'est même plus une histoire de patience. C'est-à-dire qu'entre êtres humains, on n'aurait pas cette patience. Ça prend au moins 10 ans.
Eh oui, 10 ans pour les approcher à une dizaine de mètres. Oui. En fait, les chimpanzés ont une peur panique des humains, car à peu près partout en Afrique, ils sont chassés, mangés, sauf dans quelques pays, et notamment donc en Ouganda, où il y a une espèce de respect pour ces animaux qui sont si proches de nous, justement. Et donc, on a réussi à les habituer, c'est le terme qui est consacré pour dire qu'ils acceptent notre présence, sans du tout utiliser demander d'aliments. Et donc, simplement, à force de patience et d'obstination, pour tenter de les approcher. C'est-à-dire que les premières fois, on voit des masses qui dégringolent. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. On trouve des crottes. On suit les empreintes jusqu'à arriver à un arbre qui est celui qui les attire et où, un peu excités par les fruits et tout ça, ils vont un peu moins faire attention à nous, et petit à petit, on va réussir à s'approcher. Mais oui, certains gardent encore, même après 15 ans, une certaine peur de notre présence. Ouais.
Et vous dites d'ailleurs que la confiance est contagieuse chez eux. Vous avez parfois des ambassadeurs.
Oui, on a eu une ambassadrice absolument fabuleuse qui s'appelait Koutou, ça veut dire oreille en rutoro, la langue locale. Donc c'était une vieille femelle à qui manquait une oreille et peut-être qu'elle ne voyait pas bien. Et donc elle a accepté qu'on s'approche d'elle. Elle avait un jeune enfant qu'on appelait Kimchi. Et petit à petit, les autres femelles se sont senties en confiance et elle a transmis cette sensation qui fait que on sent que petit à petit on se rapproche d'eux, qu'on fait partie de leur univers, qu'on rentre dans leur intimité, et jusqu'au moment où en fait ils nous tournent le dos et au moment où ils nous lâchent du regard, c'est là le plus beau cadeau qu'on reçoit.
Et vous dites que la preuve majeure de leur présence, puisqu'on ne les voit pas la plupart du temps, c'est leur odeur. Qu'est-ce que ça sent un chimpanzé ?
Alors, les adultes, en fait, les mâles et les femelles adultes, ont une espèce d'odeur forte, musquée, et puis probablement un peu de transpiration. Et en fait, c'est une odeur que j'adore, que probablement certains trouveraient un peu repoussante. Mais en fait, quand on se sent enveloppé dans cette odeur, on sait qu'ils sont prêts. On se doute que derrière, peut-être un buisson ou l'autre, il va y avoir... Donc c'est masse, parce qu'ils font quand même 50 à 60 kilos. Hein. C'est pas des petits singes, c'est vraiment des grands singes. Et voilà, et donc c'est là où le jeu de piste est encore plus enivrant quand on sait qu'ils sont là.
Alors on découvre qu'ils ont chacun des personnalités, qu'ils rient, qu'ils se font des chatouilles, qu'ils jouent, il y a les pouillages évidemment, qu'ils se font la cour de façon différente. Il y a des chimpanzés qui ont 50 rapports sexuels dans la journée, je parle d'une femelle, et il y en a d'autres qui sont exclusives.
Oui, alors dans un même groupe, alors déjà il y a des façons de séduire différentes en fonction des groupes, et puis dans un même groupe, en fait, on peut avoir des mâles qui ont des stratégies différentes, et puis ils peuvent en changer en fonction des partenaires. Mais certains, en fait, partent en sorte de lune de miel, donc pour faire comme un petit couple qui va partir parfois pendant un jour, deux jours, ou parfois une semaine, trois semaines. C'est le cas d'Eliott qui avait amené Kenzo très loin, en dehors même du territoire qu'on connaît, avec ses premiers enfants. Et 8 mois après, on a découvert que Kenzo avait un bébé qui probablement était donc le fils d'Eliott. Donc ça, c'est une stratégie pour garder la femelle avec lui. Et puis, d'autres vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle du mate guarding, donc garder la femelle pour lui, même si les autres sont autour. Et donc là, ça va être une sorte de chasse aux autres, essayer d'éloigner les mâles le plus possible. Et par contre, de séduction très intense de la femelle. Donc, vraiment trouver tous les moyens pour être le plus proche d'elle, lui faire des. Alors, à ces bitolis, ils font des confettis pour attirer leur attention. Alors qu'à d'autres endroits, dans d'autres communautés, ils peuvent cogner sur les troncs pour attirer leur attention, taper du talon. Et ça, c'est vraiment culturel. Ça dépend vraiment du groupe dans lequel le chimpanzé évolue.
Mais la durée d'un rapport, la durée moyenne est toujours de 10 à 15 secondes.
Oui, jamais beaucoup plus.
Donc on fait la cour très longtemps et on s'accouple 10 à 15 secondes.
Eh oui.
Mais certaines femelles s'accouplent 50 fois avec des partenaires différents.
Alors voilà, donc ça c'est la troisième stratégie, c'est laisser les autres et pas perdre trop de temps à garder, sans tenter de séduire la femelle. Et puis une sorte de... En fait, ils font la queue au pied de l'arbre et chacun leur tour, ils vont voir la femelle.
Ça ressemble à des pratiques humaines dont j'ai eu vent. Alors... Et ce qui est intéressant, et ce que vous soulevez à plusieurs reprises dans votre livre, c'est que tous les stéréotypes, sont dérangés par les mœurs des chimpanzés. Et on apprend aussi, par exemple, qu'ils inspectent respectivement leur vulve et leur pénis. Mm-hmm. Ça, c'est assez rigolo. Il y a la masturbation, la fellation chez eux.
Oui.
Il y a l'homosexualité aussi.
Alors, il y a des comportements de monte, mais j'ai jamais vu de pénétration entre deux mâles.
D'accord.
Par contre, oui, quand ils se retrouvent et ils vont s'enlacer, s'enserrer, etc., mais pas de pénétration.
D'accord.
Après, les inspections, oui, ça c'est fréquent.
Inspection d'organes sexuels.
Oui.
Ça se passe comment ?
Alors, quand les mâles inspectent les vulves des femelles, ils tapotent, ils mettent les doigts dedans, ils sentent, voilà, et je pense que c'est un moyen d'évaluer à la fois l'état proche de l'ovulation, mais aussi quand une femelle n'a pas été en ovulation depuis un certain temps, probablement ça leur permet au niveau avec les hormones de voir à quel stade du cycle elle est. Et voilà.
Alors là, je sais pas comment réagir. Attendez, comment réagir à cela ? Je voulais. Oui, si, voilà, c'est ça que je voulais soulever. Quand ils ont un rapport sexuel, le chimpanzé utilise ensuite des feuilles pour se nettoyer.
Oui. Alors, les chimpanzés mâles s'essuient le pénis. Les femelles, pas toujours. Mais les mâles, en tout cas, à Cibitoli, oui, c'est très fréquent.
Et alors, différence à nouveau entre femelles et mâles. Les femelles, la plupart du temps, pas toutes, mais migrent. Alors que les mâles restent dans leur groupe.
Oui, exactement. Et donc, c'est assez incroyable, parce qu'en fait, les femelles ont grandi dans un univers social qu'elles connaissent très bien, dans un environnement où elles ont appris où se trouve chacun des arbres avec des fruits. On a l'impression que la forêt tropicale est hyper exubérante, qu'on va vraiment avoir des ressources partout. Mais en fait, non, c'est difficile pour un chimpanzé de trouver ses ressources. Et donc, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui les pousse en fait à changer de groupe et à arriver donc dans un territoire où elles ne connaissent absolument pas où se trouvent les fruits et où elles ne connaissent personne non plus. Donc ce sont vraiment des aventurières dans toute la splendeur du terme.
J'ai évoqué les stéréotypes qui volaient en éclats grâce à eux. Il y a par exemple le fait que ce soit souvent les femelles les plus âgées qui plaisent le plus.
Exactement.
C'est agréable quand même de savoir que ça existe quelque part.
Oui, on suppose en fait que c'est grâce à l'expérience qu'elles ont, sont des bonnes mères, et aussi elles ont noué des relations avec les mâles qui, eux, restent sur leur territoire de naissance. Et donc, voilà, les jeunes femelles, en général, sont plutôt mises de côté et ne sont pas très intéressantes pour un mâle chimpanzé.
Vous observez aussi, hélas, des chimpanzés blessés, mutilés, ou des chimpanzés qui, à cause de la pollution, ont des malformations faciales. Et vous soulignez que là-bas, il n'y a jamais d'exclusion du groupe.
Non, on n'a jamais vu en fait de réaction par rapport à ces malformations, que ce soit donc les malformations faciales, puisqu'on a environ 30% des chimpanzés qui ont les narines atrophiées, donc qui leur donnent vraiment un visage particulier, ou même à cause des mutilations des pièges, donc certains perdent des pieds ou des mains, donc ont des moignons, mais à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt des espèces de binômes qui se forment, notamment par exemple, on a vu que pour traverser la route, on a une route qui traverse le territoire des chimpanzés dans le parc où on travaille. Et donc là, ce sont généralement les individus dominants, les plus costauds, sains, etc., qui encadrent les plus vulnérables. Donc ça peut être des femelles avec leurs enfants ou aussi les handicapés.
Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli. Couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil, je me réveillerai, tu verras, tout
oreiller de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras, tu verras. Je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras contre toi, contre tous. Et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera. Car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde.
Le standard de ce soir, Claude Nougaro, tu verras.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
J'ai un contact avec toutes les autres espèces. Je l'ai photographié, je m'ai approché, tu vois. On est le seul animal cruel qu'il y en a. Un lion tue une gazelle pour s'alimenter. Mais il ne torture pas la gazelle. Et nous, on est capable de le faire. Et pire, on est dur avec les autres animaux. On est très dur avec notre planète. J'ai peur qu'il va arriver un moment que la planète va nous jeter, va nous éliminer.
Le photographe brésilien Sebastião Salgado en 2024 sur France TV. Sabrina Krief, vous avez choisi de parler de l'exposition qui lui est consacrée à la mairie de Paris.
Ouais, c'est avec beaucoup d'émotion que j'entends sa voix aussi. C'était une personne absolument adorable, avec une humanité incroyable pour les autres êtres vivants, qu'ils soient humains ou animaux ou végétaux. Et bah, c'est cette exposition, une belle rétrospective de son travail. Un homme formidable.
Personne ne m'a jamais approché pour me demander d'entrer à l'Académie française. Et d'autre part, je n'ai jamais eu l'intention de poser ma candidature et je ne la poserai jamais. Je ne considère pas que ce soit là ma place. Il y a parmi les académiciens des gens pour qui j'ai de l'amitié et de l'estime, et parfois plus. Je ne voudrais surtout pas les laisser s'engager au milieu de leurs collègues qui sont moins bien disposés à mon égard, dans des démarches dont le résultat est certain de mon côté, il est bon qu'ils sachent qu'il est inutile de me demander cela, si par hasard l'idée singulière leur en venait. Mais je tiens aussi à mettre fin à cette légende, parce que c'est une légende de la presse, qui périodiquement relance ce canular quand elle n'a pas sous la main d'autres monstres du Loch Ness.
Je voulais qu'on entende la voix de Louis Aragon qui parle là en direct de 1961, Sabrina Krief. C'est vraiment une excuse parce que c'est pour parler d'un de vos 12 portraits dans le livre Infiniment Proche, et c'est le chimpanzé Aragon, qui est amputé mais qui est un très bon percussionniste.
Exactement.
Alors expliquez-nous comment ça, percussionniste.
Alors, les chimpanzés donc vocalisent, comme on l'a évoqué précédemment, mais aussi ils tambourinent en fait sur les racines contreforts. Hein, donc les grands arbres de la forêt tropicale ont des espèces d'énormes racines qui peuvent faire jusqu'à 1,50 m, 2 m, et qui ont une résonance exceptionnelle. Et donc, certains chimpanzés sont meilleurs que d'autres, et notamment Aragon, donc à la fois avec ses mains, mais aussi son pied et son moignon, réussissent à imprimer des rythmes absolument incroyables. Et donc nous, on arrive à reconnaître certaines percussions et dire, ben voilà, ça c'est Aragon qui arrive. Mais il a été montré aussi par des chercheurs qu'ils étaient capables entre eux de savoir qui faisait de la percussion et ce que ça signifiait. Donc chaque individu a un rythme particulier et transmet des informations grâce à ces sons.
Alors, Si j'ai choisi aussi d'entendre Aragon, c'est pour parler des prénoms que vous donnez à ces chimpanzés. Parce qu'il y a Gabin, bon ça vient de l'acteur, évidemment Gabin c'est l'acrobate, fils de Garbo, qui a aussi été inspiré par le cinéma. Ils ont des prénoms et des noms de famille ou uniquement des noms de famille?
Non, ils ont un nom, oui. Qui peut être soit un prénom, soit un nom de famille. Et en fait, c'est un moyen mémotechnique aussi, de savoir à quelle famille appartient tel et tel individu.
Donc la fille de Garbo, c'est Gilda.
Oui, voilà, il y a Grant, il y a Georges pour Clounet, et puis Gabin pour Jean Gabin. Voilà, donc on a des petites familles comme ça.
Et René pour votre grand-mère.
Oui, exactement. Et un petit Sebastião pour Sebastião Salgado, qui est le fils de Shakira.
Ah oui, voilà. Bah,
là,
évidemment.
La filiation n'est pas...
Non, c'est pas évident quand même, ça. C'est pas très précis.
Non, mais en fait, en fonction des moments et des hommages qu'on veut rendre, on peut voilà, avoir des...
On apprend dans ce livre que devenir mère s'apprend auprès des autres mères.
Oui. Exactement. Donc, j'ai tracé le portrait de Gina, notamment, qui avait déjà perdu son premier enfant et qui, au moment en fait, où elle a donné naissance à Goliath, a commencé à vraiment se rapprocher donc, de Garbo, qui elle-même venait de donner naissance à Gabin. Et pendant un an, en fait, elle a copié tous ses faits et gestes. Dès que Garbo descendait d'un arbre, elle partait en courant à sa suite. Et en fait, probablement qu'elle avait vécu cette première expérience de son premier enfant qui n'avait pas survécu comme un traumatisme. Et on voit d'ailleurs ça chez les chimpanzés. Hein, une mère qui perd un enfant va garder le cadavre jusqu'à ce qu'il soit momifié pendant des semaines, voire plus d'un mois ou deux. Voilà, c'est cet attachement en fait au petit corps qui reste est absolument incroyable.
Il y a beaucoup de choses mystérieuses et incroyables qu'on découvre dans ce livre aussi, notamment Elliot, le mâle alpha depuis 2008, qui disparaît très régulièrement et dont tous les retours sont fêtés. On ne sait absolument pas ce qu'il fait lors de ses disparitions. Et mince, il nous reste plus quelques secondes. Est-ce que vous pouvez dire en quelques secondes pourquoi tout à l'heure, parce que je tiens toujours mes promesses, j'ai dit aux auditeurs que j'avais peut-être imaginé avaler des choses sans les mâcher, bien que je n'ai pas les problèmes que vous allez décrire.
Alors les chimpanzés, quand ils se soignent, ils s'automédiquent, ils ingurgitent tout rond des feuilles rugueuses, hérissées de petits poils. Donc ils les roulent dans leur bouche et ils les ingurgitent comme ça et ça permet de déparasiter, donc de faire partir tous les vers qui sont dans le tube digestif.
Ce sont de grands botanistes.
Oui, ils sont capables non seulement de connaître et reconnaître les plantes, mais aussi de se souvenir de leurs propriétés pour se soigner.
Merci beaucoup Sabrina Krief.
Merci Eva.
Infiniment proche est paru aux éditions Grasset. Et cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Thomas Allard.